Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition dont joue la prolongation. Nous sommes le 12 avril 2021, il est 20h. Vous êtes bien sûr Radio Judaïka 90.2 FM, ainsi que sur le... Vous pouvez nous retrouver également sur radiojudaïka.be. Il est donc 20h, on joue la prolongation.
En retrait pour Giresse,
Et
reprise
de... Goal
pour la Belgique.
À la fin, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Eh bien, on est vraiment ravis de vous retrouver après deux semaines off. Ça fait plaisir d'être là avec vous un lundi soir. Autour de moi, plateau prestigieux, s'il en est. On a tout d'abord un homme qui est mauve de... Ouais, son cœur est mauve, sa peau non. Un homme comblé sans doute par le résultat d'hier soir. Ah, s'ils avaient joué comme ça depuis le début de la saison, hein. Bonsoir Henri Daniel.
Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais, c'est toi, j'ai le cœur mauve. Il a été parfois rouge pendant la saison, hein. Il a un peu signé.
Ah, tu commences à guérir. T'avais pas changé de...
Non,
de vareuse, quand même.
Impossible.
Bon, ça va alors. Avec moi également, un homme dont on va souligner le professionnalisme. Ça n'est pas une petite blessure, ni même une grosse blessure au pied qui va le contraindre à renoncer à l'émission. Il ne rechigne pas à la tâche. Il est des nôtres, fidèle au poste. Blaise van der Linden.
Bonsoir à tous, bonsoir Samuel. Et oui, c'est vrai, oui, je suis en béquille, mais toujours présent pour le plaisir de nos auditeurs.
Voilà, un homme qui boite, c'est un peu à l'image de son club de cœur, l'Olympique
qui boite
de Marseille.
Dans les 5 premières minutes de chaque mi-temps.
Bon, mais en tout cas, on est ravis que tu sois des nôtres ce soir. Et un dernier chroniqueur autour de moi, vous savez. Eh oui, il est là, il est bien là. Son club termine vraiment la saison en beauté. Il se demandait s'il n'aurait pas pu faire mieux toute la saison. On en a reparlé. Peut-être pas, peut-être.
Bonjour Sam.
Steve Brice, bien sûr.
Alors, il termine en boulet de canon.
Oui.
Et je pense qu'on peut que nourrir des regrets, hein, après le match de vendredi.
Ah, c'est vrai que c'est un beau match. On va en reparler. On va parler de tout ça et de plein d'autres choses. On a un très beau programme aujourd'hui. On va commencer cette soirée en compagnie de Alexandre de Meiter, le directeur responsable communication et marketing de l'Union Saint-Gilloise, qui nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. On a plein de questions à lui poser. On a plein de questions sur ce club ambitieux qui remonte. Et donc, on va l'interroger, on passera sur le grill. Après ça, on parlera bien sûr de la Pro League, et en particulier du Topper qui s'est disputé
oui,
hier
parlons-en,
soir.
Parlons-en.
Oui. Et qui a vu donc la victoire d'Anderlecht face au leader, le club de Bruges. Salut Didier, si tu nous écoutes. On parlera également de la 34e et dernière journée de Pro League qui est à venir, qui se disputera dimanche prochain à 18h et qui livrera son verdict sur la saison, tant pour les qualifications pour le play-off 1, le play-off 2 et même la relégation, même si on pourrait avoir de ce côté-là des nouvelles dès ce soir.
Cette fois-ci, c'est bien la 34.
C'est la 34 qui se joue à la
34e.
Cette semaine-là, ce sera parfait. Il y a pas de...
On joue pas la 28e.
Non, il n'y a pas d'entourloupe de la Ligue de ce côté-là. On est bien dans les clous. On parlera ensuite Ligue des Champions, puisque c'est la semaine des quarts de finale retour qui commence demain, avec un alléchant Paris Saint-Germain Bayern, mais également un Chelsea Porto. Et on finira par un tour d'Europe du football, puisqu'il y a eu de grandes rencontres, un beau classico, un Manchester City qui s'est fait surprendre, un United qui a retourné Tottenham, pour la plus grande joie de Blaise, sans doute, puisque hein, le grand ami de José Mourinho.
C'était un grand, grand match de football, hein, avec deux tacticiens hors pair.
Ah oui, c'est vrai que ça fait peur quand même.
Un petit peu.
On en reparlera tout à l'heure, mais ça fait peur quand même de voir Manchester United deuxième. Bon, allez, suffisamment dit de
Alexandre,
de bêtises.
L'Angleterre, c'est un championnat que tu suis?
Alors,
de temps en temps.
On va, voilà, on a donc Alexandre Demeter avec nous en plateau, en studio. On est très heureux. Bonsoir Alexandre, ravi de vous recevoir ici. Vous êtes donc responsable communication et marketing de l'Union. On imagine que vous êtes d'une part très heureux en ce moment et très occupé puisque il y a sûrement plein de choses qui vont se présenter. Je vais laisser la parole à Henri pour démarrer cet entretien. Et encore une fois, merci d'être avec nous ce soir.
Avec plaisir, bonsoir à tous.
Ouais.
Ça marche ?
Tout marche.
Okay. Bonjour Alexandre, donc, merci d'être venu jusque-là.
Avec plaisir.
J'imagine qu'effectivement, comme dit Sam, les journées sont bien remplies, parce que le championnat n'est pas fini.
Bon, effectivement, on est champion, donc je pense qu'il y a bien pire comme situation.
En tout cas, bravo pour la saison. Nous, on a suivi ça. On a eu, grâce à toi, on a eu Félicien Mazou qui est venu au micro de Judaïka. Il a fait l'unanimité, hein, je dois dire.
Oui, tout à fait.
Donc, on va parler pas sportif, puisque ce n'est pas votre rayon d'action. C'est plutôt le marketing, la com, de l'Union, mais pas que. Vous êtes aussi président ou directeur d'une société qui s'appelle Sportimize. Pouvez-vous nous expliquer d'abord ce que c'est Sportimize ?
Disons que Sportimize, c'est la boîte que j'ai créée moi-même en 2014. Et en fait, je suis indépendant. Et donc, après quelques aventures dans le sport, j'ai décidé de créer ma boîte et donc trouver des clients pour tout ce qui est consultance, com, marketing, réseaux sociaux. Et donc, via ça aussi, effectivement, je travaille pour l'Union et d'autres. Et à côté de ça, je suis aussi le seul média en Belgique qui traite l'actualité du business sportif. Certes, c'est sur les réseaux sociaux, mais je pense que tout un chacun qui est intéressé par cette actualité, il trouve son bonheur, quelques fois par jour, des posts intéressants sur la Belgique, sur l'Europe et sur tout ce qui se passe dans le monde du business sportif au niveau mondial.
Et c'est ça qui vous a amené à l'Union, par Sportimize ?
C'est pas Sportimize qui m'a amené à l'Union. Je crois que je suis arrivé à l'Union parce que le président d'époque, Jürgen Bach, suivait le Basic Fit Brussels, le club de basket de la capitale, qui est devenu Phoenix Brussels entre-temps, et où je travaillais avec d'autres collègues, même des stagiaires, etc., qui ont fait un super travail. Et il aimait bien la stratégie et il s'est dit « j'aimerais bien qu'on en discute ». C'était au mois de juillet 2016 et depuis lors, je suis à l'Union.
Bravo. Donc, on va parler marketing. Quand on parle marketing, moi, je suis profane, mais je pense à produits. Donc, l'Union Saint-Gilloise, c'est un produit. Un club de foot, c'est un produit.
Je pense que chaque club de foot est un peu un produit. Maintenant, évidemment, on parle surtout de l'âme du club. C'est ça qui attire les gens.
Et c'est
maintenant, le marketing sportif, c'est effectivement, on joue sur les facteurs, sur les vecteurs positifs du club et donc du produit pour le mettre en avant, pour attirer d'autres personnes, d'autres supporters, des sponsors, des fans potentiels, des prospects froids si on veut dire, qui suivent le foot mais qui ne suivent pas forcément l'Union. Le but est fatalement de les faire aimer le club et à côté de ça, on a le sportif qui contribue à ça, on a nos supporters, on a un stade unique en Belgique, même presque en Europe ou au monde. Tout ça joue en faveur et aide le marketing du club en l'occurrence.
Et l'identité je suppose de l'Union. Quelle est l'identité
partie est assez unique aussi.
Quelle est l'identité de l'Union par rapport aux autres clubs bruxellois, par exemple ?
On a cet esprit zouanze, on a cet esprit supporter, on a cet esprit unique du stade, comme je disais. Mais il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'Union pour passer un bon moment. Et le résultat sera, pour certains, anecdotique. Ils auront passé un bon moment, ils auront vu leurs amis, ils auront bu quelques bières, mangé un hamburger, il fait beau, c'est agréable, on est dans un parc à Bruxelles. C'est cool.
On vient en famille aussi.
On vient en famille aussi, en famille, entre amis. Il y a beaucoup d'expats aussi à Bruxelles qui ils trouvent leur bonheur à l'Union.
Moi qui suis, comme mon accent peut-être peut le laisser
trahir. Suédois.
Suédois. Français. J'ai entendu, j'ai beaucoup entendu, l'Union c'était bien souvent le deuxième club des, plus que des Bruxellois, parfois même des Belges, et qu'on allait parfois, en tant que supporter d'un Anderlecht, on allait voir Anderlecht le samedi, et que le dimanche, on allait voir l'Union, parce que c'est, ben voilà, comme vous l'avez dit, c'est un moment sympa. Est-ce que vous sentez une, parmi les, la fan, alors il y a une fanbase, bien sûr, qui est pour l'Union, est-ce que vous sentez une sympathie ou quelque chose de la part des autres supporters de football en Belgique vis-à-vis de l'Union, une place un peu particulière, je dirais, dans le cœur des gens?
Mais il faut se dire que ça fait 48 ans que l'Union n'a pas été en D1, n'a pas été professionnelle jusqu'en 2016, qui sont arrivés en D1B à 8. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé au même moment et je percevais, on a joué les playoffs de la première année, on a vu Malines, on a vu Beveren, et en parlant avec les collègues directs de ces clubs, tout le monde dit « Ah, mais c'est chouette l'Union, ah, j'ai hâte de venir au stade ». Et j'ai énormément de collègues dans le football belge qui trouvent le club super sympa. Maintenant, oui, on n'a pas été professionnel, le club n'a pas été au plus haut niveau, contrairement à, jusqu'à cette année, tous les autres clubs. Donc, pour ainsi dire, on n'a embêté personne.
C'est l'année prochaine que ça va commencer, peut-être.
J'espère.
Mais non. Et donc, comment est-ce qu'on communique sur cette identité? C'est les réseaux sociaux essentiellement?
On a choisi surtout d'utiliser les réseaux sociaux comme tous les autres clubs pour augmenter la fanbase, pour donner une image dynamique au club. Ça, c'est quand je suis arrivé, c'était la volonté aussi à l'époque de vraiment dynamiser la marque. Et j'avais dit en arrivant à mon collègue Olivier, que je salue au passage.
Bonjour Olivier.
On doit dépoussiérer le produit. Parce qu'il y a une petite marque de poussière au-dessus quand même. Et donc, on a fait ça à travers les réseaux sociaux, avec le peu de moyens qu'on avait à l'époque. Et maintenant, les moyens deviennent de plus en plus grands avec la montée aussi. Mais le but est vraiment de continuer, de garder toutes les valeurs du club et continuer à en faire un club très dynamique qui est toujours fort apprécié par tout le monde en Belgique. Et on parlait des supporters d'Anderlecht, etc. Bah, ils allaient à Anderlecht le samedi soir, ils venaient à l'Union le dimanche après-midi. C'est sympa, c'est ce qu'on disait là tout de suite. C'est un cadre unique aussi. Donc,
On a eu la chance d'avoir fait Tiemazou au téléphone. C'est aussi une personne qui véhicule certaines valeurs en termes de personnalité. C'est quelqu'un. Nous, on dit sur Judaïka, on dit c'est un mensch. Donc c'est quelqu'un, une belle personne. Je pense que participe de cette image générale. Les réseaux sociaux. Bon, il y a évidemment différents réseaux sociaux. Est-ce qu'on communique différemment sur Facebook que sur Twitter ou que sur Instagram ou je ne sais pas, TikTok si vous y êtes?
TikTok, on y est. Depuis,
c'est vrai
on a commencé en début d'année, on a uploadé des vidéos, on commence activement avec TikTok, mais chaque réseau social a ses spécificités et aussi son public. Je pense qu'on parle de TikTok. Le but sur TikTok sera vraiment de toucher un public beaucoup plus jeune. Quand on voit les tranches d'âge qui sont là-dessus, on est dans du 13-25. Peut-être un petit peu plus parfois. Le but sur TikTok sera de toucher ces jeunes-là avec quelque chose de dynamique. On avait posté une vidéo d'un de nos joueurs qui fait un contrôle vachement sympathique. J'invite à aller voir, Sibbe van der Heijden. On a eu 86 000 vues, ce qui est gigantesque.
Avec des enfants qui essayent de reproduire?
Je n'ai pas vu qu'ils essayaient de reproduire, mais je les invite à le faire, sans se blesser évidemment. Mais non, chaque réseau a sa spécificité. Instagram, c'est un public tout aussi jeune aussi. Et alors on a Facebook qui est déjà plus mainstream, qui va toucher plus de monde, qui devient presque informatif, pas autant qu'un site web, mais les gens peuvent aller chercher sur Facebook toutes les infos qui nécessitent aussi, avec ou sans redirection vers un site web.
Alors, notre petit jeune à nous, il a une question sur les réseaux sociaux.
Oui, donc on a vu là, cette semaine, Swansea, Birmingham et les Glasgow Rangers qui ont décidé de supprimer leurs comptes, leurs réseaux sociaux pendant toute la semaine suite aux nombreux messages racistes que leurs joueurs ont reçus. Est-ce que de un, vous estimez que pour un club c'est viable? Et de deux, est-ce que l'Union pourrait envisager de le faire? Parce que. Ici, j'ai l'impression que l'Angleterre est vraiment beaucoup, beaucoup plus impliquée que tous les autres championnats dans la lutte contre le racisme. Et je ne sais pas si un club peut le faire tout seul ou si on doit suivre absolument les autres équipes du championnat.
Mais fort heureusement, on n'a pas eu ce problème à l'Union. Donc je suis déjà très content. Maintenant, oui, j'ai vu l'action passer de ces clubs. Je pense que on doit cadrer ça dans quelque chose de plus global. Je crois que bon, ça, c'est un débat pour la société. Il y a beaucoup plus d'insultes qui se véhiculent sur les réseaux sociaux. En tant que club, effectivement, on en reçoit aussi, certes, très très peu cette année, il faut être honnête avec ça, mais il y a beaucoup de personnes qui attaqueront d'autres via les réseaux sociaux qui ne le feraient peut-être pas forcément quand on est face à face.
Donc, c'est de l'anonymat, ça.
C'est une part d'anonymat, mais c'est aussi une part de cause à effet. Il n'y a pas de conséquences directes, si ce n'est être banni. Et on a, bon, à l'Union, il y a quelques insultes qui fusent, mais j'ai toujours opté, comme en début de saison aussi, par exemple, je prône un dialogue. Essayons de parler avec ces personnes, essayons de comprendre leur frustration. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut y remédier? Maintenant, on parle d'un autre problème de racisme en Angleterre. Oui, c'est... je ne pense pas qu'il y a beaucoup de moyens d'y remédier. Il y a un autre club, Brighton, pour ne pas le citer, qui avait aussi eu un tel problème il y a quelques mois. Et là, ils ont choisi eux-mêmes d'interdire le supporter pendant un an ou deux de stade, par exemple. Il y a eu le même problème avec un supporter de Bruges il y a quelques mois aussi. Finalement, c'était aussi dans les médias. Et ils ont pris des sanctions, apparemment, à l'égard de ce supporter. Donc...
Et aujourd'hui, un club de foot ne peut pas vivre sans ses réseaux sociaux. C'est impossible.
Je pense que leur action, pour une semaine, ça passera.
Oui, mais non, plus loin, c'est impossible.
On peut pas, je crois que tout le monde, et même toi, maintenant, tu as aussi ton téléphone sur la table. Et si on a une notification de notre club favori ou quoi que ce soit, qu'il se passe quelque chose, tout le monde est intéressé d'aller voir. Donc, les réseaux sociaux sont indissociables des clubs de foot, et même, comme Daniel disait, des marques en général. Donc, mais c'est un bon moyen, c'est un bon vecteur pour aussi faire un statement comme Swansea ou les Rangers l'ont fait.
Puis ça, je pense que ça permet une proximité. Moi, j'étais fan d'Anderlecht quand j'étais petit. Ça n'a pas changé. Avoir un contact direct avec un joueur, ne fût-ce que de le voir en vrai, c'était déjà quelque chose. Maintenant, les réseaux sociaux permettent quand même de suivre les réseaux, éventuellement de le communiquer, d'envoyer un message. Même au club, si j'avais envie d'écrire au club, je ne savais pas comment faire. Je pense que c'est un vecteur de proximité utile.
Bien sûr, ça permet, comme l'exemple que tu disais tout à l'heure, ça permet de voir le contrôle du joueur à l'entraînement, ça permet de voir plein d'autres choses.
Ce que je veux dire par là, c'est plus on s'identifie au club, on se rapproche, plus on s'attache et on supporte. Je suppose que c'est ce qui est recherché par les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est directement de la vente ou... les réseaux sociaux, c'est plutôt...
On ne vend pas. Il y a surtout une volonté, quand on parle même dans la team com ou même quand on parle avec d'autres collègues, etc., on a envie de faire plaisir aux supporters. Et certainement maintenant, depuis un an,
j'imagine,
de tenter de montrer l'envers du décor, d'apporter le quelques plus, justement, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le club. On ne peut pas tout dire, évidemment. Il y a parfois des joueurs, ils sont blessés. Entre le moment de la blessure et le résultat final de quelle sera la blessure et quelle sera l'indisponibilité, il y a parfois 4, 5, 6, 7 jours qui passent. Mais on essaie quand même d'être un maximum plus proche des gens. Et qu'avant, tu disais, quand tu étais petit, tu lisais dans le journal le lendemain matin ce qui se passait. Ici, on essaie d'être vraiment très, très... très rapidement sur l'action, sur le fait, et de le partager.
Du coup, les joueurs sont briefés sur ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils ne peuvent pas dire.
On a un team building en début de saison où est-ce qu'effectivement on parle aux joueurs, mais c'est positif aussi pour eux. Parfois, j'ai eu des joueurs par le passé, parfois ils sont en mode selfie vidéo au volant, donc ça on leur dit, allez, essaye d'éviter, non pas pour l'image du club, mais pour ta propre image et surtout pour ta sécurité et celle des autres. Donc,
est-ce qu'on a besoin de toi dimanche?
On en a besoin certainement, mais on a surtout, c'est par ce workshop ou cette discussion avec les joueurs, c'est aussi une part de travail ensemble, peut-être d'éducation pour les plus jeunes aussi.
Est-ce que ça va changer en passant en D1A? C'est plus cadré.
C'est déjà assez cadré. Cadré même. Envers la presse en général ou envers ce qu'on met pas sur les réseaux sociaux, on essaye un maximum d'être correct en fait.
De manière plus générale, est-ce que le grand saut qui s'annonce va modifier ou comment va-t-il modifier la stratégie de communication et de marketing de l'Union? On imagine que vous allez avoir peut-être plus de demandes à gérer, est-ce que de la part de la presse, peut-être comment est-ce que on se prépare à ça? Comme vous l'avez dit, en plus, ça fait 48 ans que le club est pas en première division, donc il y a tout à réfléchir et tout à bâtir. Comment est-ce qu'on envisage ça?
Pour l'instant, on discute surtout du structurel.
Ok.
Je pense que l'Union en D1B, la stratégie com qu'on avait mis en place, c'est une structure com qui est tout à fait viable et qui est très très valable en D1A. Bon, je laisse chacun comparer avec d'autres clubs s'il le souhaite. Mais la stratégie que j'ai créée avec mon assistante Maude et avec aussi d'autres personnes qui travaillent avec nous au marketing, au ticketing, etc., on tente de calquer qu'est-ce qui se fait dans les meilleures ligues. Moi, j'ai des bons exemples comme le PSG, comme ce qui se fait en MLS, comme ce qui se fait en Allemagne, en Bundesliga, par exemple. C'est des marques très, très, très fortes. Et donc, on essaye d'aller chercher aussi la moutarde et de l'adapter à la sauce locale bruxelloise en gardant l'esprit unioniste. Et ça, c'est surtout ce qui est capital, c'est garder cet esprit union qui est unique. Et donc, c'est là-dessus qu'on construit. Mais pour répondre à la question, pour l'année prochaine, il y aura plus de demandes de presse. J'ai discuté avec certains de mes collègues journalistes, etc., comme on va... Dès qu'on peut, on va aller boire un verre, on va en discuter, on fait ça dans une bonne ambiance, dans un good feeling, et on tente justement de s'entraider un maximum les uns les autres.
Steve, oui.
Oui, je voulais répondre sur ta dernière question et sur la réponse. Vous avez dit, ce qui caractérise l'union, c'est cet esprit zouanze. Justement, ce côté, il y a beaucoup de gens, beaucoup de passionnés, c'est une marque très positive. Les gens vont pour boire une bière, manger un burger, et des fois, ils suivent à peine le match, c'est une ambiance générale. Et toute la question se pose, tout le défi va être maintenant, on est en D1, avec ce risque énorme, et on l'a vu toutes ces nombreuses années, de tous ces clubs de D1B qui montent en D1, et... Après l'enthousiasme, il y a souvent justement un côté. Ben voilà, on est un peu déçu parce qu'on se rend compte que on joue plus les cadeaux du classement. Est-ce que vous pensez justement quel va être vos points d'action pour que cet esprit zouanze, cet esprit on est bonne patte, les gens aiment venir chez nous, va pouvoir rester dans le cadre de cette division 1 qui est un très professionnel et de deux en sachant gérer justement cet aspect. Peut-être, et logiquement, déception de rentrer dans le rang une fois qu'on joue maintenant avec les cadors du championnat qui sont le standard et les autres.
Quoi ? disons qu'on est tributaire du sportif, quoi qu'il en soit. Donc un club de foot, la semaine commencera en fonction du résultat du week-end. Et là c'est good feeling, on gagne, ça fait... Ça,
je vois de quoi tu parles. Ma semaine a bien commencé en fonction des résultats de ce week-end.
Oui, je m'en doute. la mienne aussi. Mais non, on est... Comme je disais, on est tributaire du résultat du week-end. Maintenant, effectivement, j'ai déjà connu par le passé dans ma carrière une bonne douzaine de défaites d'affilée. C'est très difficile de communiquer, effectivement. Mais l'esprit zouanze, comme tu dis, ça fait partie aussi de cette dérision, même dans la défaite. Et ce qui est positif aussi aux supporters de l'Union, ils veulent voir que les joueurs se donnent à fond. Et tu vas aller jouer contre le Standard, contre Bruges, contre Anderlecht. Mmh. Si les joueurs se donnent à fond, mais tu peux perdre. Il y a aucun club qui va enchaîner toute la saison avec uniquement des victoires ou rester invaincu comme l'Union 60 par le passé. Donc tout sera une question de fréquence, de mentalité, etc. Mais bon, ça c'est le sportif. Et en com, on fera un maximum pour continuer à offrir un tas de trucs aux supporters de ce qui se passe en coulisses, de quiz, de marketing. Tout cet aspect marketing global qu'on a dans un club.
Dans l'identité, on parle beaucoup du parc d'Uden, du stade Marien, qui est vraiment identitaire. Cette tendance actuelle, moi je suis un vieux de la vieille, le loto-parc, j'y arrive pas. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à l'union du naming, le stade?
À titre sportimais et personnel, je pense que le naming d'un stade est très intéressant. Miami CF, par exemple, le club de Beckham, ils ont signé un accord avec Automotive et ils soutiennent la lutte contre le cancer à travers ce même partenariat. Ça a été dévoilé il y a quelques jours. Donc le naming n'est pas forcément péjoratif ou négatif, mais je pense que dans une structure sportive moderne, ça permet de ramener de l'argent au club en offrant le nom du stade. Donc je peux comprendre, et surtout en Belgique, on a plus de mal avec ça, j'ai l'impression. Le nom du stade, c'est sacré.
Mais c'est identitaire.
C'est identitaire, mais le stade reste le même. Et j'ai vu Montpellier, ils veulent aussi maintenant chercher en France. La Mosson, c'est aussi un stade plus ou moins mythique. Ils veulent aussi chercher un partenaire naming. Ça permet aussi au club de survivre ou de vivre tout court. Donc
c'est une tendance forte, quoi.
Je pense, ça se fait de plus en plus partout. Donc maintenant, il faut voir, ok, à qui appartient le stade. Donc en l'occurrence ici, c'est une construction compliquée avec plusieurs intervenants, la commune de Saint-Gilles.
La commune, c'est ça. Ouais.
Donc
on imagine qu'il y a une excitation bien sûr particulière à remonter en D1. Est-ce qu'il y a ce serait normal, une excitation particulière à disputer de nouveau des derbies face aux voisins, aux grands frères, aux rival Anderlecht. Derby bruxellois, plus que d'autres matchs, j'imagine que ça va être un match particulier.
Bon, on a eu des derbies cette année contre l'UEDM. L'Union en a gagné 3 des 4 aussi, ce qui est vraiment pas mal. Mais maintenant, Anderlecht, on les a affrontés cette année, ça c'était un peu... moins sympa, on va dire.
Mais l'année dernière.
Non, il y a deux ans.
Il y a deux ans, pardon.
C'était mieux. Une des plus belles soirées
de ta vie.
J'étais pas là ce jour-là, j'avais piscine, je crois.
Personnellement, oui, effectivement. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Et beaucoup de supporters comme moi, comme nous dans le club, on avait vu, je pense, le Standard s'est fait sortir la veille par Knock, Bruges s'est fait sortir par Dens, qui était en D1 amateur à l'époque. Et on allait à Anderlecht avec l'envie, avec l'espoir, mais surtout, avec, quelque part dans un coin de la tête, on s'est dit, mais il y a déjà tellement de gros qui sont passés à la trappe.
Alors, pourquoi pas nous, ça?
Non, c'est,
non, c'était l'inverse.
Plus dans notre petit. Mais à ce moment-là, c'était un fait des autres équipes le jour avant. Et donc, ça rend la victoire encore plus belle. Et le groupe, ce soir-là, a fait une prestation phénoménale aussi. Ah, Et on a reçu, comme Daniel le disait là tout de suite, les messages directs sur les réseaux sociaux. On a reçu vraiment des messages très sincères de personnes qui disaient « Oh, si mon père avait vu ça, si mon grand-père était encore là, oh, qu'est-ce qu'il serait heureux, etc. » On a reçu, je pense, sans exagérer, 20 à 30 messages dans cette direction. Et on les avait justement, on les a repris et on avait fait un visuel avec ça quelques jours après.
Pas cette année.
Cette année, on était... On enchaînait un match contre le Lyre, quelques jours après. On s'est vite concentré là-dessus. Le championnat est plus important.
Bah oui.
Alors, si tu veux bien, on va terminer par un tu préfères. Deux propositions complètement absurdes. Tu as le droit de ne pas répondre.
J'ai combien de jokers?
C'est gentil, tu vois. Alors, tu préfères jouer au Parc du Den sans public ou au Lotoparc plein de supporters de l'Union?
Ah.
Au Parc du Den plein de supporters de l'Union.
J'ai pas comme... Bon. Alors, jouer en coq sportif, mais qu'on aurait oublié de laver, ou jouer en Joma mauvais blanc tout neuf?
Ben, on a un intendant qui est super professionnel, qui est génial en plus.
J'aurais pas de réponse.
Donc, on va garder le coq sportif, même un petit peu sale, parce qu'il aura eu... une méchante gastro, on va dire.
Piéger un communicant, ça va être difficile.
Hein. Exactement. Accroche-toi.
Battre Anderlecht deux fois, mais descendre en D1B, ou prendre une tatouille et rester en D1A?
On prendra autant de tatouilles qu'il faut pour rester en D1A. Donc, mais j'ai de toute façon confiance aux sportifs. Donc,
On l'aura pas, hein.
Non, il est redoutable.
Jouer le titre avec Compagnie ou le maintien avec Mazou?
On parle de l'Union, hein.
On parle de l'Union.
Oh, bah, Vincent, j'ai un bon contact avec lui personnellement, donc... Si on joue le titre avec Vincent, ça sera magnifique. Mais je préfère encore jouer le titre avec Felice, parce qu'on a
un. Oui, c'est pas dans mes propositions. Alors, on te propose d'échanger gratuitement Nmecha et Van Zer. Tu prends?
Non, je garde Dante. Moi.
Ouais.
Bah oui. Enfin, sauf si.
Je pense que tout le monde le garde.
Je propose. j'essaye de proposer.
Ah, nous, on l'aime bien Nmecha, mais. On accole souvent son nom avec l'expression à côté.
En plus, Dante dans le groupe, c'est un super chouette gars, ça vit bien, et on voit aussi leur altruisme en attaque avec Brighton, Labo et avec Denis Zundav, ça se partage les pénalties, les passes décisives, les actions, etc. Maintenant, j'espère quand même...
J'arrive pas à le fourguer. Hein. Alors, dernière question, REDM ou Anderlecht?
Ça ne fera pas plaisir à nos supporters, mais je préfère encore les RUDM parce que je m'entends bien avec certaines personnes là-bas. On a Tracy Empathy, on a Michael Marcou, qui est team manager. Donc,
décidément.
On a plein d'anciens joueurs qui étaient là aussi. Donc,
Que des réponses pour me plaire. Un grand merci pour d'être venu nous voir en studio, pour les réponses.
Ouais, et puis... c'est très sympa. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de ton. De
sa boîte.
Sa boîte.
Ma boîte, c'est Sportimize.
Et c'est là-dessus qu'on peut avoir les news de business sport en pays. C'est donc sportimize.be.
Sportimize.be, mais c'est surtout sur Instagram, Twitter, Facebook. Et j'invite surtout tout le monde à suivre l'Union, parce qu'on a, un beau projet. Et on va bientôt en D1A. Donc j'invite tout le monde. Et surtout, une fois que les supporters peuvent regagner le stade, j'espère très, très, très rapidement. J'invite tout le monde à venir au Parc.
On viendra.
C'est une expérience unique.
Nous, on te dit pas ça pour te flatter, te dire parce que tu es là, mais ici en studio, on s'est dit que la prochaine fois qu'on aura le droit de s'asseoir dans un stade, et ben ce sera pour aller voir un match de l'Union tous ensemble.
Rendez-vous est pris.
Ouais, on a tous des tendances et des amours différents au niveau football, mais on était tous d'accord pour se dire que ça serait un moment sympa et écoute,
Ça veut dire que l'image est bien véhiculée aussi.
Ouais. Et on bravo souhaite pour plein, ça. Plein de réussites, plein de bonnes choses pour la saison prochaine. Et puis, tu pourras revenir avec plaisir nous donner des nouvelles du club quand tu veux.
Avec grand plaisir. Et vous êtes tous les bienvenus aussi.
On viendra.
Merci
Alexandre.
Merci Alexandre. On en a appris des choses ce soir sur l'Union. On a vraiment On a hâte de les voir en D1A. Et ben en parlant de D1A, si on commençait, hein, si on commençait le D1A, c'était donc le 200e topper qui s'est joué hier et il a tourné à l'avantage d'Anderlecht, victoire 2-1. Pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Loin de là, les Brugeois ont dominé la première heure. Ils auraient même pu ouvrir la marque par Vormer en première mi-temps. Mais le recours à la VAR a conduit à l'annulation du but. Ne parvenant pas à débloquer le match, Philippe Clément, bien inspiré, a fait entrer Noah Leng à la mi-temps, à la reprise. Et avec l'entrée de l'ailier néerlandais et tout son talent, c'est un changement gagnant pour Bruges, puisque Leng a inscrit un but assez fantastique. Plein de réussite, il faut le dire.
Voilà, moi je,
mais quel but quand même. Ouais. Si on, en tout cas, juste, on cite tout ce qui a été fait, crochet, roulette, petit pont, frappe placée au ras du poteau, c'est beau. Après, tu as raison.
Moi, franchement, enfin, genre, ok, je vous avoue, le but, je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu après, et en fait, j'ai entendu à la radio que tout le monde disait c'est le but de l'année dans notre championnat, et voire en Europe. Et alors, je l'ai vu après et je me suis dit mais ils ont craqué ou quoi, c'est pas possible, le gars il a de la chance, il n'y a personne qui l'attaque, il frappe et elle rentre. C'est un très beau but certes, mais de là à dire que c'est le but de l'année en Europe, franchement il faut pas abuser, enfin, le petit pont il passe...
Je crois qu'il loupe, sa roulette, oui, c'est ça, ce qui fait que ça donne petit pont, normalement il aurait dû la récupérer avec l'autre pied mais ça passe entre les jambes. Mais
ça n'enlève pas le talent du joueur.
Non,
que,
sans doute
c'est un but merveilleux.
Ouais. On le dit depuis le début de la saison.
L'audace récompensée surtout.
Oui.
C'est le fait d'essayer ça à l'entrée directement, une roulette retournée entre
et
quatre
puis,
défenseurs.
Il récupère le ballon après avoir fait une louche qui a été renvoyée. Ouais, on sentait qu'il était déjà il était vraiment impliqué. Il est rentré, il est monté à la mi-temps et il voulait pas laisser.
C'est quand même un sacré joueur.
Ah ouais, c'est une belle acquisition pour Bruges et un talent incroyable dans le championnat. Mais pourtant, voilà, ça c'était bien.
J'attendais la suite.
Voilà, maintenant qu'on a bien passé la brosse à reluire. Donc ce changement gagnant, en tout cas pour le début de cette deuxième mi-temps, va pas rester en l'état à ce moment. Et c'est vrai que connaissant la fébrilité des Mauves depuis le début de la saison, on pensait qu'ils étaient bien mal partis pour accrocher leur objectif, le play-off. Enfin, on rappelle quand même que sur les trois derniers matchs, Anderlecht jouait l'Antwerp, le club de Bruges, et va finir à Saint-Tron. Donc c'était difficile, une première victoire face à l'Antwerp, et là mener 1-0, on s'est dit, enfin moi je pensais que ça allait être bien bien compliqué. Mais les Anderlechtois vont faire preuve de ressort mental et tactique, ou en tout cas managérial, je ne sais pas si tactique c'est le bon mot, mais en tout cas managérial, très bon changement de compagnie. Parfois les changements servent à rien, on ne le dit pas. Bon, là on le dit, il a fait rentrer deux joueurs qui vont être décisifs, en tout cas Amouzou, c'est certain. Là aussi, il va être à l'auteur de l'assist, c'est donc Amouzou qui remplace Achimeru. Il va être auteur d'un assist pour Nmecha après un contrôle aussi assez chanceux.
J'ai cherché dans les modes d'emploi, il n'existe pas celui-là.
Il n'existe pas, non. Il a fait un contrôle de quoi exactement?
Du talon,
crampons. Bon, en tout cas, la balle est parfaitement restée en place et il était en état pour faire un beau centre. Et Nmecha, on est mauvaise langue ici à dire qu'il met toujours à côté. Là, il l'a bien mise au fond. Et à ce moment-là, on est à la 72e minute. Et comme aurait dit Thierry Roland en son temps, les mouches vont changer d'âne. Et pour les 20 dernières minutes, c'est vrai que les Bruxellois vont prendre le contrôle du match et ne vont pas perdre trop de temps, puisque 4 minutes après seulement, une frappe magnifique, assez improbable, de Sambi Lokonga va venir tromper Mignolet, une frappe qui était puissante, vicieuse. Mignolet va avouer après qu'il a fait un pas de trop, un pas sur sa droite, parce que c'est vrai que le ballon commence à prendre une trajectoire sur la droite de Mignolet, et puis je ne vais pas dire que c'est les nouveaux ballons, parce que ces ballons-là, on joue avec depuis 15 ans, mais c'est vrai que c'est un ballon qui a tendance à changer de trajectoire et peut-être un peu masqué. Il y a eu un rebond aussi, enfin, Mignolet un peu court, et le deuxième but marqué
par Sambi.
Bref, c'est goal, voilà, on peut couper les cheveux en quatre. Bref, c'est goal, bref, c'est 2-1, et bref, c'est 3 points
Pour le coup, le but de Sambi, je le trouve plus beau que celui de Noah Lang, par exemple. Je trouve qu'il est, enfin, il frappe sans élan, il est entouré, et puis cette frappe, elle est incroyable. Et
moi, je trouvais que la construction, mais la belle sortie de balle de Verskaren qui la remet, Kullen fait touche le ballon juste ce qu'il faut pour bien la donner à Sambi, qui marque. Et donc, c'est le but de la victoire, et grâce à cette victoire, les Anderlechtois occupent la 3e place au classement. Alors,
pour l'instant.
Non, c'est impressionnant. Je pense qu'on doit peut-être individuellement et ou collectivement faire un certain mea culpa.
Oui.
Parce que tactiquement,
oui.
Ce groupe, on l'a beaucoup commenté depuis le début de la saison. On était tous d'accord pour dire que on se rappelle pas d'année où Anderlecht a eu un groupe avec des individualités aussi peu connues. On dit pas que ça manquait de talent, mais on dit que finalement on n'a jamais vu Anderlecht avec si peu de grands talents. Et là, il faut reconnaître quelque chose, c'est que cette victoire, cette position, pour moi, c'est vraiment le travail de Kompany. C'est Kompany qui a réussi à donner à ce groupe, à ces individualités qui sont qualitatives mais qui sont pas de grandes individualités, finalement suffisamment de panache. Pour décrocher, faire une fin de saison assez canon. Et moi, je suis assez impressionné de voir. On ne peut pas dire qu'ils ont fait un énorme pressing haut hier, mais tout de même, Bruges, je les ai rarement vus jouer avec autant de longs ballons.
Ouais.
Bruges usait et abusait de longs ballons. Je ne sais pas exactement comment Kompany a fait, mais il a cadenassé totalement les relances entre les lignes, qui fait que Bruges, et on les a rarement vus comme ça. Me semblait un peu dépourvu
un peu embêté
en fait,
parfois
ce milieu de Bruges qui est totalement dominateur dans tous les matchs du championnat. Hier il n'était pas là,
il n'a pas pu s'exprimer
exactement, et c'est eux, enfin c'est Van Aken et Vormer qui font tout.
D'ailleurs, Van Aken sort.
Et hier, ils étaient et en plus, Trebel a pas fait un match énorme mais il était carbo, je pense. Enfin,
il vient de jouer 3 matchs d'affilée en n'ayant plus joué depuis 2 ans.
Ouais, c'est ça.
Milieu de terrain, Sambi Lokonga, Trebel et Lach, qu'il a réussi depuis qu'il les a mis ensemble, ça cartonne.
Ils sont bons. Et d'ailleurs, sur le but, c'est Aïté Lach qui sort la balle,
qui fait la
passe à Amouzou. Mais il est tellement lucide. Le gars, il est hyper jeune. Il arrive à éliminer un joueur et puis faire une sorte de transversale de l'autre côté et lancer Amouzou parfaitement. C'est super.
Je me rappelle qu'il y a 2-3 semaines, on disait, mais vous vous rendez compte, le calendrier d'Anderlecht.
Ouais.
Le calendrier d'Anderlecht, c'était impossible.
J'étais le seul à avoir dit que c'était Ostend qui allait sauter.
Rien n'est fait encore, mais c'est vrai que c'est...
Bravo à Kompany aussi de s'être remis en question. C'est-à-dire qu'il avait des certitudes, il arrivait avec certaines certitudes sur des joueurs, sur des positions, sur un système, et il a su les modifier. Évidemment, un entraîneur qui gagne a toujours raison. Je veux dire, le même match, il y a effectivement ce goal annulé de Vormer en début de match.
En une semaine, ces prestations, à la fois contre l'Antwerp et contre le club de Bruges, ils donnent... En effet, quand une équipe gagne, elle donne raison à son entraîneur. Mais là, enchaîner en une semaine 2 prestations face aux deux plus grandes équipes, quand on parlait d'une équipe au fond du trou, je pense chapeau à Kompany. C'est ses victoires à lui.
Exactement, je pense que c'est le charisme qu'il a et qu'il a réussi à insuffler à ses joueurs, la force qu'il a réussi à insuffler à ses joueurs, ça a joué sur ces deux matchs-là. Je pense qu'il leur a dit, si on n'arrive pas à faire des résultats dans ces deux matchs, notre saison, elle est complètement ratée, quoi. Et j'imagine qu'il a réussi à trouver les mots pour les surmotiver. Et au final,
lui a pas parlé de finale pour 10 matchs. Alors que les matchs étaient perdus les uns après les autres. Non, il a trouvé les mots.
Je pense.
Bravo aux jeunes, quand même.
Ouais. Ah, c'est la jeunesse au pouvoir, là.
Justement, est-ce qu'il y a un homme du match qui sort pour vous? Est-ce qu'il y a Ailadj, Sambi?
Sambi, pour tout ce qu'il a subi cette semaine dans les médias, franchement.
C'était injuste, hein,
complètement injuste.
C'est pas son meilleur match. C'est pas le meilleur match de Sambi. Mais par contre, ils ont joué en sacrifice. J'ai l'impression que ce soit Sambi ou Trebel. Effectivement, était peut-être moins brillant, à part le goal de Sambi. Mais en termes d'implication et d'auto-sacrifice, c'est impressionnant. Mm-hmm. Après, il sort Trebel. C'était justifié, et il a mis un homme frais qui a fait la différence, qui a fait son rôle. Donc le coaching, le match fait 90 minutes, donc peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, s'il faut en changer, on change, et c'est le club qui gagne à la fin.
Ouais, donc, il a pas attendu très longtemps. Je suis un peu une douzaine de minutes pour faire ces changements.
J'étais étonné de la gestion de Bruges, qu'en général on avait souligné plutôt la maîtrise. Je parle pas de football, d'occasion, etc. Je parle de maîtrise simplement. Ils mènent 0-1 à Anderlecht. C'est étonnamment, ils n'ont pas, ne fût-ce que garder le ballon.
Mais ça fait quelques semaines, hein, qu'ils sont un peu plus réguliers.
Les deux éliminations.
Ouais, ils ont eu leur semaine noire où ils ont été sortis par le Standard et par. Et en Coupe d'Europe Kiev. Par Kiev.
Comme Didier nous avait rappelé, après ils ont enchaîné quand même avec un 5-0 contre Zult, mais tout de même ils ont.
Ils avaient des longues séries et
ils alternent le haut et le bas avec des contres.
Ils n'étaient plus invincibles, quoi.
Voilà. Sixième défaite, le club de Bruges et Anderlecht étaient les deux seules équipes qui n'avaient pas perdu après avoir été menées. Et Anderlecht est la seule équipe désormais à. Je suis pas sûr de ce que je dis, remarquez.
Anderlecht, c'est pas tellement fait. Une phrase qui commence par Anderlecht, ça va se terminer bien.
Bon, enfin, en tout cas, c'est assez rare de voir cette saison Bruges.
Oui, chapeau de la gestion d'Anderlecht aussi, de finalement d'avoir géré cette saison. Je sais pas si c'était fait exprès, mais pour que le pic de forme finalement se passe au bon moment.
Il va falloir trouver un gardien quand même.
Il va falloir trouver un gardien.
Je reviens quand même sur les 13 matchs nuls. En termes de points, c'est que 13 points. Quoi. C'est pas des défaites, mais c'est que 13 points sur 36. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Il y a quelque chose à faire, et c'est très bien que tu parles des matchs nuls, parce que...
Je suis très content que tu me dises que c'est très bien.
Que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que le championnat de Belgique recèle une petite particularité, puisqu'en cas d'égalité au classement, c'est pas la différence de but qui est prise en compte. En tout cas, c'est pas le critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est le nombre de victoires.
Oui.
Et on parle, là, on glose autour d'Anderlecht, c'est très bien, mais
la soirée s'est mal terminée, Anderlecht.
Tout pourrait être très mal se terminer, en cas de défaite à Saint-Tron.
Absolument.
Et en cas de victoire d'Ostende, qui va jouer sans doute contre un adversaire qui va être
démobilisé,
parce que c'est le cercle de Bruges. Le cercle, a priori, ils seront sauvés, peut-être, sauf en cas de victoire de Moucron ce soir.
Je crois qu'ils sont sauvés.
Non, Moucron a deux matchs à jouer encore, puisqu'il joue ce soir contre l'Antwerp. Et qu'ils ont 31 points contre 35 pour le cercle.
Bah, au pire, ils sont barragistes, c'est ça ?
Voilà, au pire, ils sont barragistes, mais on peut penser qu'ils vont être peut-être un peu démobilisés. Dans ce cas-là, ça faciliterait peut-être les choses pour Ostende. Et à Saint-Tron, c'est pas facile.
J'ai regardé Gang Saint-Tron.
Oui, j'essaye de créer un petit peu.
Il faudrait vraiment une belle contre-performance. Encore que Peter Maas, l'entraîneur de Saint-Tron, il est capable du meilleur comme du pire. Hein. Mais... Et Anderlecht reste un de ses clubs où il a joué et il adore le scalp de ses anciennes équipes. Hein,
comme dirait mon ami Steve, c'est du synthétique.
C'est du synthétique en plus.
Il joue à Saint-Tron.
Ouais. Il joue à Saint-Tron. Wow. Il joue à Saint-Tron.
On a déjà parlé souvent.
Anderlecht a 55 points. Quand on sait que 15 de ces 55 points ont été pris contre le top 3, on sait que aux équipes qui sont plus faibles, Anderlecht réussit pas forcément. Donc je veux pas être
l'oiseau de mauvais augure. N'est pas celle de jouer.
Voilà, oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Et pourtant, ils auraient pu l'être puisque il y a eu cet autre match, le Berscott contre Ostende justement, qui aurait pu sourire, le résultat aurait pu sourire Anderlecht, mais malheureusement, c'est une partie remise. Puisque les Anversois, donc du Berscott, avaient ouvert la marque à la 23e minute par Brogno, avec une superbe passe extérieure de gauche de Vandenberg. Je pense qu'il peut la refaire 20 000 fois, 10 fois. Je ne suis pas sûr qu'il la réussisse aussi bien, parce qu'elle arrive vraiment dans les pieds. Belle frappe croisée de Loris Brogno. Le Berscott va tenir cet avantage très longtemps. D'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que les joueurs d'Anderlecht, en sortant du match, ils répondaient aux questions. Ils avaient, eux, à ce moment-là, l'info que le Berscott menait.
On parlait de Champions League.
Voilà, ils parlaient déjà de Champions League. Mais donc, ils vont tenir le Berscott jusqu'à la 81e minute.
Je ne veux pas rappeler mon combat de la saison. C'est que les matchs devraient jouer 80 minutes. C'est ça nous arrangerait bien.
Et pourtant, voilà, c'est Kvasina qui va égaliser suite à un corner. Et quand on sait que le Berscott est une équipe friable, hein, c'est la troisième plus mauvaise défense de la Ligue, et ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et Yael Bataille va offrir la victoire au Côtier à 3 minutes après l'égalisation, son premier but de la saison. Ce qui fait que la qualification d'Anderlecht n'est pas acquise pour le play-off 1 encore. Parce qu'avec cette victoire, Ostende met encore la pression. Alors,
j'étais étonné, parce que les saisons précédentes, si je ne m'abuse, les deux dernières journées de championnat se jouaient tous en même temps. Mais c'est peut-être uniquement en termes de play-off.
Là, c'est juste la dernière.
C'est juste la dernière.
C'est seulement la dernière. J'ai l'impression que c'est les deux années, c'était les deux dernières.
Et alors justement, cette dernière journée qui se jouera dimanche prochain à 18h va nous offrir plein de matchs très intéressants à tous les niveaux. Les scénarios possibles pour le play-off 1. Alors on sait d'ores et déjà que Bruges et Genk sont qualifiés. Les Genkois d'ailleurs ont étrié Saint-Trond dans le derby de Limbourgeois, 4-0. Donc effectivement, c'était à Genk, donc peut-être.
Oui,
que
mais
sur
t'es
le...
impressionnant Genk. Ouais. Hein. Ouais, non, vraiment ont... impressionnant et cet attaquant là.
Onuachu.
Oh,
vraiment incroyable.
Ouais, ouais, 27 buts.
Je regardais, je scoutais pour la finale de la Coupe de Belgique.
Non, alors
sérieusement, j'avais l'habitude de regarder. C'est beau à voir Genk. Genk, les années passent, les joueurs passent aussi, mais il y a toujours quand même quelque chose. C'est souvent, très souvent, un plaisir
bon
de
football,
les voir jouer.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont eu un petit creux à un moment, mais ils avaient très très bien démarré. Et puis là, ils reprennent un peu de leur
super. Leur cellule recrutement, elle est vraiment géniale. Quoi. Ils arrivent à trouver des joueurs, ils vont les chercher dans des championnats super.
Toujours, chaque saison, il y a souvent des joueurs différents. Et c'est toujours des joueurs qui sortent d'on ne sait pas
exactement.
Où. Et qui deviennent des vrais bons joueurs.
Au final, qui ne restent pas très longtemps, qui restent 2 ou 3 ans.
Ça, c'est le problème général de la Belgique.
Oui, bien sûr, c'est un tremplin.
Dans une même génération, tu sors Courtois et De Bruyne, juste ça.
Ouais, ouais.
C'est incroyable.
Et la petite amie de...
À Genk. non mais j'arrive... Genk, quoi.
Genk, ouais, non, c'est vrai que c'est assez fou. Donc les Genkois sont qualifiés. Les Genkois. Ils sont qualifiés pour le play-off comme Bruges. Et donc il y a un match à 3 pour les deux dernières places. En attendant, l'Antwerp, on rappelle qu'il joue, le match commence. Maintenant, l'Antwerp se déplace à Moucron et peut valider son billet dès ce soir en l'emportant. Donc une victoire de l'Antwerp ferait qu'il y aurait dans ce cas-là une seule place accessible en play-off 1 qui se jouerait entre Anderlecht et Ostend. On l'a dit, la dernière journée, ce sera Saint-Trond-Anderlecht, Ostend-Cercle de Bruges et l'Antwerp-Genk, l'Antwerp perd ce soir. C'est vrai que l'Antwerp, ça va être aussi difficile parce que se taper Genk lors de la dernière journée.
Et Moucron a faim. Moucron a besoin de points.
Moucron a faim ce soir puisque Moucron est pour l'instant avec 31 points et 17e et donc barragiste et doit espérer et peut encore descendre directement en cas de victoire, de défaite, et en cas de victoire la semaine prochaine de Westland Beveren, c'est pas encore fait, je vous l'accorde.
Je prêche pas pour ma paroisse, mais ce top 4 play-off 1, Bruges, Genk, Anderlecht et l'Antwerp, ça va être chouette à regarder.
Ouais,
va être chouette, avec des vraies oppositions de style, des clubs qui sont plutôt en... Voilà, ce sont tous des clubs qui sont plutôt en forme, ce sont certainement les 4 meilleures équipes en plus du championnat.
Et alors j'imagine, je me tourne vers toi Henri, si c'était le tableau final du play-off 1, toi et tous les supporters d'Anderlecht, vous seriez bien contents puisque comme je l'ai dit, face au top 3, Anderlecht a réussi 15 sur 18 et il se trouve justement que ce serait face à ce top 3.
Champions League,
voilà. Et c'est vrai que là...
Il n'y a que 18 points à prendre pendant les play-offs.
Ouais.
Donc Bruges est vraiment probablement inatteignable, sauf effondrement.
Ce qui... On va diviser, on rappelle.
Bruges est champion de toute manière. Ça c'est... Maintenant, c'est la deuxième place qui va être importante à aller chercher.
Ça va être serré. Hein.
On rappelle que pour le play-off, on divise le nombre de points récoltés pendant la phase régulière par 2. Donc,
Et on garde les demi en poche. Hein.
Et on garde, ouais. Et donc, si...
pour séparer.
Pour séparer, c'est ça. Donc si par exemple Bruges l'emportait la semaine prochaine, il serait à 76 points, ça ferait 38, une fois que c'est ramené. Et Genk, si...
C'est 25, non ou 27.
Il serait à 20... Non, il serait à 28.
Oui,
donc ça fait
le championnat n'est pas en question dans ces playoffs.
Non.
Plutôt la beauté des rencontres liées aux positions, parce que la deuxième place est atteignable par tout le monde.
Alors la deuxième place, elle est précieuse parce que ça donne accès au dernier tour. Dernier tour de qualification pour la Champions League, pas deux tours, mais un seul tour. Et en cas d'élimination, c'est reversé directement,
En groupe,
de
Europa League. Enfin, on l'a vu avec Charleroi cette année, c'est quand même un peu un poison ce truc de troisième tour et tout. Après, c'est super de jouer, d'avoir l'opportunité de jouer la Champions, mais enfin.
Charleroi,
c'était l'Europa League, mais ils ont quand même joué l'été, tu vois. Ils avaient le tour de.
Les tours de qualification.
Les tours de qualif, c'est un poison, quoi. Enfin, les gars, ils ont un mois de vacances en moins. Enfin, c'est.
Charleroi n'avait juste pas le noyau. Hein.
Petite parenthèse, on a commencé en leur disant, ils ont fait un
18 sur 18,
un truc comme ça. Est-ce que c'est pas l'année de Charleroi?
Ah, je me rappelle qu'on était à ce même studio en train de gloser sur la réussite de Charleroi, mais en disant attention. Attention à l'effondrement. Il y aura des coups de mou, on avait dit, et attention à l'effondrement possible.
Et là, ils sont même pas playoff 2.
Là, l'effondrement n'est plus possible. L'effondrement, c'est une chute en avant.
Hein. C'est même pas playoff 2.
Non. Et justement, pour le playoff 2, il reste 3 places à prendre et 5 équipes en compétition. 3 places à prendre, puisque forcément, la meilleure place, la 5e, sera occupée par le malheureux de la course au playoff 1. Donc Anderlecht ou au stand ou peut-être l'Antwerp. On a donc 5 équipes qui sont encore dans la compétition, puisque il faut descendre assez loin. Le 6e, c'est le Berscott avec 47 points et OHL même à 45 points, 11e. Rien n'est fait.
OHL aussi, hein, quand même.
OHL,
fait beaucoup de promesses en début. Ouais.
C'est prometteur. Puis... un beau jeu, mais un sacré duo.
Berscott OHL était deuxième et troisième pendant tout un temps.
Ouais, non, ça s'est régulé. Donc la semaine prochaine, on va avoir des rencontres intéressantes pour le Playoff 2, et notamment avec des affrontements directs, puisque le Standard 7e affronte le Berscott 6e, et que Zulte Waregem 8e affronte la Gantoise 9e. Et figurez-vous qu'en cas de match nul dans ces deux matchs, par exemple, et en cas de victoire de Malines, ce qui serait pas impossible contre Courtrai, eh ben ce serait les Malinois qui passeraient. Donc tout est encore faisable. Malines, oui, je vais jouer à Courtrai.
Malines, c'est l'ancien club de Prud'homme.
c'est le club de Steven Defour.
Oui, c'est ça. Steven Defour.
À qui on dira
au revoir.
Au revoir, président.
Peut-être pas,
effectivement. Peut-être qu'il a un dernier tour de magie dans son sac.
Ce serait peut-être si le Standard est bel et bien en Playoff 2, ce que j'espère pour ne pas être. Et ça, je crois que c'était le meilleur discours de Lay, plutôt que les finales, c'était pour éviter l'humiliation.
Ouais,
parce qu'il faut redorer le blason pour éviter l'humiliation. Un dernier affrontement avec le Malines de Defour serait pas mal pour sa tournée d'adieu.
C'est vrai.
Ils ont joué ensemble ou pas? Ouais, non.
Defour et Lay.
Lay et Defour.
Non.
Standard, non.
C'est une bonne question.
Je pense pas.
Non. Écoutez, je vous propose qu'on va faire un petit stop, histoire de reprendre nos esprits et de chercher cette information. Et on va écouter un petit break musical. Peter Gabriel, vous aimez bien?
On prend.
Bah, vous n'avez pas le choix de toute façon.
C'est ça, être cher.
C'est ça, ben voilà.
Choice.
Et Salisbury Hill, Peter Gabriel, hein, c'était le... Parce que vous savez que Peter Gabriel, c'était le chanteur de Genesis avant que ce soit Phil Collins.
Oh, là,
on apprend des choses. Phil Collins quand même, non?
Ouais. La chanson du PSG, quoi.
Exactement. T'as raison.
Non, mais on les confond un peu, hein.
Ouais.
Non, c'est vrai. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais, écoutez... Pas pour rien. On n'a pas vraiment parlé en profondeur du standard. Pourtant,
c'est
pourtant,
fait exprès à vous. Quoi.
Mais non, on ne veut pas te brimer. Surtout après une.
Non, tu veux me préserver parce que c'est quand même plus sympa de parler de course au play-off 1 que de se battre pour la course au play-off 2.
C'est vrai, mais comme le standard a fait quand même un sacré beau match, 4-0.
On en vient à se réjouir de ça et on en vient à s'enthousiasmer de ça. J'étais moi-même surpris. En regardant ce match et en étant excité comme un enfant, chez moi, on m'a demandé, mais il y a quoi? Il y a la Champions League? Je fais, non, le standard gagne 4-0 contre Penn. Contre qui?
On vient de passer à l'huitième.
Donc, chez toi, on connaît le mot Champions League, parce que chez moi, on connaît pas
chez
le mot.
Chez moi, on connaît le mot Champions League, oui. Mais on connaît pas un joueur du standard. Vous allez me dire, vous non plus, peut-être? Non, mais plus sérieusement, on en vient à s'enthousiasmer de ça. Vraiment. Alors, c'est chouette parce qu'on peut se dire, on garde notre âme d'enfant, peu importe contre qui on joue. Mais c'est aussi parce qu'il y a un manque. Il y a un vrai manque. Il y a un manque de fond et il y a un manque de résultat. Et là, il y a eu le résultat et il y a eu parfois un moment du fond. Et c'était très agréable à regarder. Ça fait plusieurs semaines, je trouve, que le standard, déjà sans suivre les résultats, produit du jeu beaucoup plus agréable. Ces individualités, je l'ai toujours dit depuis le début, je ne changerai pas. Le standard n'a pas un club, n'a pas une qualité pour être champion, mais individuellement, les joueurs du standard, avec ces petits jeunes, il y a vraiment de la qualité. Mmh. Et ils avaient de la qualité pour moi pour être dans le top 4, clairement.
Devant, les deux devant, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup comment ils jouent à deux. Et là, Klaus était sur le banc en plus.
Ça fait deux matchs qu'il est sur le banc. Il est blessé. Mouleka, il
fait un gros match. Hein.
Il commence à devenir très très bon. Chaque fois, il marque. Lui, c'est sa spécialité, c'est le premier poteau. Je sais pas si vous avez vu. C'est pas facile pourtant. Hein,
non, c'est vrai.
Parce que c'est toujours premier poteau, c'est toujours un angle hyper réduit.
Deuxième et puis, normalement,
poteau, généralement, t'as passé 2-3 joueurs. Vu que si le balle arrive déjà au second poteau, c'est que t'as déjà plus le champ en libre. Premier poteau, t'as toujours un marquage.
Et puis,
il marque toujours du premier poteau.
Et puis le premier poteau, normalement, quand on est un gardien
c'est
un bon gardien,
prend,
celui qu'on voilà qu'on protège.
Moi, je suis là pour modérer un peu le bravo pour le score, mais le début de match c'est une catastrophe. Les 8 premières minutes ça peut être 0-2, enfin ça peut être 2-0 pour...
Oui, mais parce que toi t'as l'habitude des matchs qui durent pas 90 minutes. Mais...
oui, je veux pas noircir le tableau. Le fait que Penn chez lui ait commencé en mettant le pied sur la pédale, ça me choque pas. Pour le reste, je pense que outre ces deux premières grosses occasions, oui, Penn n'a pas baissé les bras avant le 0-2, mais tout de même, la supériorité du standard était quand même relativement évidente. Donc
j'ai essayé. Hein.
Y a pas une. Non, mais tu as raison.
Non,
mais avant, je pense pas qu'il y ait une domination. Il y a eu deux très grosses occasions dans le premier quart d'heure.
Tu parlais d'individualité, Amala.
Ouais. Amala.
Je crois que même dans la pierre des tornades, il est resté, lui, en tout cas, au moins un certain niveau.
En plus, vendredi, il fait pas un match incroyable, mais il arrive quand même à marquer deux buts, quoi.
Ouais. Oui, mais il arrive sur tous les matchs, même quand le standard tournait pas.
Ouais.
Lui, il arrivait à garder la tête hors de l'eau.
Oui, c'est vrai. Bon, il n'est pas toujours été là. Je trouve que cette saison, il aura manqué un grand Bastien. Bastien était quelqu'un qui, l'année passée, avait vraiment porté l'équipe et qui est fantomatique cette année. Fantomatique.
Je me demande aussi si Zino Van Usden. Ça peut peser très très lourd quand même.
Zino Van Usden, c'est honnêtement pour la perméabilité de la défense, pas pour le manque de fond de jeu de l'équipe.
Non.
Or, il y avait clairement un manque de fond de jeu de l'équipe.
Oui, même avec lui, c'est vrai que ça
permet de garder à flot, tu sais, quand tu maintiens un score, quand tu joues mal et que tu.
Mais là, moi, la conclusion de ce match, c'est regret.
Bien sûr.
Regret parce que le standard a montré, je trouve, depuis 2-3 matchs, et en particulier dans ce match-là, qu'il y a du talent, qu'il y a moyen de faire du jeu très très agréable, et que s'ils avaient pu enchaîner avec des dynamiques positives, on aurait pu voir le standard dans une autre configuration de championnat que celui qu'on a connu. Et oui. On ne peut qu'avoir des regrets. Et se dire que, il y a la finale de la Coupe qui ne va pas être facile et que potentiellement, si on maintient les joueurs, si on maintient cette dynamique, parce qu'une grande inconnue pour moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette année ? ce groupe était là majoritairement l'année passée. Le talent était là, il y a eu l'éclosion d'un certain nombre de jeunes. Je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise n'a pas pris. Et puis, en espérant donc, tablant sur ses bons résultats pour essayer de se dire on va garder un maximum de ce noyau et continuer avec la même bonne dynamique l'année prochaine.
Est-ce que ce serait vraiment la bonne solution de garder un maximum du noyau ? Je me fais l'avocat du diable, mais on a bien vu que le changement d'entraîneur n'avait pas été bénéfique nécessairement. Donc si on change d'entraîneur, alors que en plus Mbaye a été celui dont on disait qu'il cochait toutes les cases pour être l'entraîneur du Standard, en tout cas il emportait l'adhésion de beaucoup, contrairement à Montagnier, et malheureusement il y a eu, semble-t-il, les mêmes mots, les mêmes conséquences, quoi.
Oui, alors quand je dis garder ce noyau, c'est essayer de garder en tout cas les quelques stars de ce noyau, garder les jeunes aussi qui sont en train d'éclore, les Balikwisha, les Sique, les Raskin, essayer de garder ça.
Bodard.
Et puis Bodard, certainement.
Mais justement, juste, je te coupe, mais je comprends pas comment un club de Ligue 1 ou de Bundesliga est pas venu chercher Bodard, quoi. Enfin, il a clairement le niveau pour être au-dessus du Standard. Et...
Ah, je te trouve tant mieux pour lui. Alors, non. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en lui. Hein. On l'a pas vu numéro 1 du Standard si facilement. On ne présageait même pas qu'il soit numéro 1 du Standard. C'est Preud'homme qui l'a lancé l'année passée, et puis il est allé chercher. Il paraît qu'il est bien meilleur que ce qu'il a pu être dans les écoles pendant ses classes de jeunes. Il est en train d'éclore maintenant complètement au-delà des espérances de ses formateurs.
Autant un jour de chance, je trouve que s'il a l'occasion de partir jeune, pas trop jeune, mais s'il a l'occasion de partir jeune à l'étranger, ça peut être une bonne chose. Un gardien, il peut attendre, je trouve. Moi, je le verrais bien faire encore une saison au Standard sans problème.
Ouais, ok. Ouais, une saison, ok, mais enfin, il faut voir un peu plus haut, quoi.
Si le Standard va bien l'année prochaine, peut-être qu'on le verra, il sera moins mis en avant vu qu'il aura peut-être moins de travail. Ouais.
Mais vous avez gagné la Coupe, il va jouer la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai.
Je pense notamment l'ajout de Klaus. C'est un joueur qui est un joueur. On s'était posé la question, c'est qui ? Est-ce qu'il est bon ? Il a des bonnes stats, mais c'est qui ? On ne savait pas dire. Hein.
Non.
Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un buteur. Il marque pas mal, mais ce n'est pas un renard des surfaces.
Parce que personne ne marquait dans l'équipe. Donc, d'office, quelqu'un qui marque 2-3 buts,
c'est vrai. Mais c'est une vraie plus-value pour le groupe. C'est un super bosseur.
Ouais.
Il va être bien l'année prochaine. Ce qu'il faudrait, c'est rajouter un peu de qualité autour. Parce que lui-même n'est pas un finisseur, c'est pas non plus le plus grand technicien. C'est un vrai grand quelqu'un qui va chercher les ballons, qui en fait bon usage.
Il est hargneux, il est bagarreur, bagarreur dans le bon sens
mais
du terme.
Il faudra, avec les finances du Standard, il faudra essayer de s'adjoindre un peu de talent pour essayer cette fois d'accrocher les playoffs. Hein.
Et tout à fait, pour les playoffs 1 qui donnent droit de jouer la Coupe d'Europe et peut-être même la plus grande des Coupes d'Europe.
La Conference League.
Aussi. Je pensais plutôt à autre chose. À la grande Coupe d'Europe, celle avec les oreilles, les grandes oreilles, comme on dit, la coupe aux grandes oreilles, puisqu'on va passer à la Champions League. Puis demain soir débutent les matchs retour des quarts de finale. 4 matchs.
On est concerné ?
En Belgique, non. Ah. Moi, j'aurais un œil attentif sur ce qui se passera au Parc des Princes, au hasard. Puisque donc les matchs, je vous rappelle, on aura demain Paris Saint-Germain contre Bayern Munich, Chelsea contre Porto, et puis mercredi Liverpool-Real et Borussia-Manchester City. Je vous propose qu'on commence par le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. On va revenir rapidement sur le match aller. Un match aller... comme vous le savez, nos auditeurs aussi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Moi, je te dis clairement, c'est un vol. C'est un braquage à main armée.
Un exploit, quoi.
C'est un exploit, mais
l'inefficacité du Bayern, Bayern
et Lewandowski est pas là, en fait, quoi, ça se voit.
J'étais pas impressionné par l'efficacité du PSG, même si c'est à mettre en avant. Mais j'ai jamais vu le Bayern, j'ai eu l'impression de voir un vieux club belge qui essaye de mettre des patates devant et qui ratait tout.
Alors ils sont tombés sur un joueur en état de grâce. Keylor Navas était en état de grâce, 10 arrêts, c'est un des...
D'ailleurs, il a fallu un joueur du PSG qui passait au Bayern pour marquer, quoi.
Pour marquer, ouais.
Comme d'hab.
Et exactement, c'était pas celui qu'on attendait le plus, mais Choupo a marqué. Et puis dans le jeu du Bayern Munich, ça a pas été nécessairement tout le temps terrible. Leroy Sané, Leroy Sané,
il c'est a été... C'est compliqué pour lui depuis qu'il est arrivé au Bayern. Hein. Ouais, franchement, on pensait qu'il allait tout exploser là-bas et on se rend compte qu'il arrive pas, en fait.
Il y avait beaucoup d'absents, c'est vrai, hein, beaucoup d'absents. Lewandowski, on l'a dit, c'était sans doute le
finisseur.
Ouais, c'est le finisseur qui manquait.
Sûrement que lui, il en aurait marqué un ou deux des occasions que le Bayern a eues.
Et puis, il y a eu des blessures. Il y a Goretzka qui s'est blessé, Boateng.
Zule, pardon.
Et Boateng est monté. Côté Paris Saint-Germain, il y avait aussi beaucoup d'absents, et notamment tout le milieu de terrain, en tout cas les deux joueurs qui sont alignés régulièrement en ce moment, Verratti, Paredes, Florenzi aussi. Donc c'était un match qui a été bizarre. Voilà, c'était un exploit qu'a réussi le Paris Saint-Germain. On en parlait un petit peu avant, on va pas vous donner les pourcentages de chances de qualification du Paris Saint-Germain, puisqu'avec le PSG, ça rime à rien. Mais projetons-nous sur le match de demain, qui va être, pour moi, c'est du 50-50. On rappelle, avec 3-2,
Exagérer, ils ont marqué 3 goals en déplacement. Alors oui,
ça reste le...
Si Paris joue comme ils ont joué la semaine dernière, ils passent pas, c'est sûr et certain. C'est impossible. Le Bayern, ils referont pas deux matchs, ils ratent tout. C'est pas possible. Maintenant, comme tu l'as dit, ils ont marqué 3 buts à l'extérieur, donc franchement, ce serait dingue qu'ils passent pas, quoi. Et puis d'un autre côté, on sait que en Champions League, au Parc des Princes, ils sont pas souverains.
Non, ils sont pas souverains. Et il se peut que Navas, il a fait 10 arrêts, mais admettons qu'il en fasse que 8 et que ce soit extraordinaire, il prendrait 2 buts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va peut-être pas il marche sur l'eau en ce moment. Clairement, il est vraiment dans une période
impressionnante,
mais on sait, voilà, il a eu énormément de travail, beaucoup trop. Il y a un élément qui va être très important, c'est Marquinhos qui va être forfait, ce qui veut dire que la défense centrale, ce sera Kimpembe, ça c'est très bien, et Danilo Pereira, qui est milieu de terrain de formation, dont on s'est un peu moqué, enfin on a moqué un peu Tourelle quand il le faisait redescendre pour jouer en défense centrale, donc c'est Kimpembe, Danilo Pereira, fort, heureusement Lewandowski sera pas là.
Gnabry aussi.
Et Gnabry sera pas là non plus. En revanche, on avait des doutes sur d'autres joueurs du Bayern, mais visiblement Hansi Flick a levé les incertitudes, et Hernandez, Coman, Goretzka et Boateng devraient être présents. On aura, comme je l'ai dit, le retour de Verratti et Paredes, de Florenzi aussi. Absence d'Icardi, qui n'en finit plus de se voir.
Est-ce que c'est vraiment une absence d'Icardi?
Non, voilà, je sais pas. Il y a Bamba qui sera au stade ou pas?
Je trouve très prudent. Je sais pas si c'est...
Je suis très prudent parce que je...
À part ça, il paraît qu'en coulisses au Bayern, c'est...
Alors voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a le... Vous vous souvenez du surnom du Bayern, on l'appelle souvent le FC Hollywood. En tout cas, ça, c'était il y a 20 ans, à l'époque des Matthaus, Mehmet Scholl, Effenberg, etc. Mais là, il y a une grosse tension, je crois, entre Hansi Flick et Salih Amidzic, le directeur sportif, à tel point, je crois, que Rummenigge, le président, a tapé du poing sur la table en disant « Messieurs, on est le Bayern, on va garder un petit peu ça en coulisses et on parle pas de ça dans la presse ». Mais effectivement, le Bayern est peut-être pas serein. J'ai entendu quand même j'ai senti un Joshua Kimmich hyper confiant.
Ça, c'est vraiment le typique joueur allemand, quoi. La déclaration qu'il fait, c'est typique allemand, quoi. C'est...
Ah bon, on est meilleurs, on a été meilleurs.
Après, il faut dire que lui, c'est vraiment un sacré joueur. Hein. Ouais. Sur le terrain, là, même contre le PSG, c'était magique. Même s'ils perdent, c'est...
Je n'en reviens pas que tu considères que c'est 50-50.
Oui, moi aussi.
Et là, je rejoins Henri... On a l'impression que tu mets.
Non, c'est pas pour exorciser les choses, mais je connais le Paris Saint-Germain qui a une. Qui ressemble à aucun autre club pour ça. Et avec toute la confiance qu'on a, ils peuvent prendre un but dans les 10 premières minutes et après, il suffirait qu'ils prennent 2 buts.
Hein. Ils jouent contre la meilleure équipe du monde.
On l'a vu contre le Barça au match retour.
Exactement.
Ils sont à deux doigts de passer à la trappe quand même. Hein.
Mais la finale l'année passée, ils perdent 1-0, ils ne sont pas explosés non plus.
Non.
Ils ont les moyens, ils ont les ambitions. Ils ont marqué 3 buts en déplacement. Il faut y croire.
Ils en ont marqué 3 contre Manchester United il y a 2 ans.
Et je le dis et je le redis, je l'ai déjà dit dans cette émission. Il y a ce côté on porte ce besoin de gagner la Ligue des Champions comme une croix.
C'est ça.
C'est chouette de le dire sur Judaïka, mais c'est vrai, on le porte comme un fardeau qui n'est pas une dynamique positive.
Non, c'est vrai.
Et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on leur rappelle que oui, il serait tout de même temps de la gagner une fois pour toutes cette Ligue des Champions. Ça les paralyse, ils deviennent fébriles.
Chat et chaudé craint l'eau froide. Moi, je me souviens surtout de après la
comment dire remontada,
la démontada quand on a le Paris Saint-Germain avait gagné à l'aller contre le Barça 4-0. Que Messi n'avait pas vu le jour face à Kimpembe. Il y avait un entretien pour une web TV ou je sais plus avec quatre joueurs du Paris Saint-Germain. Entre les deux matchs, et ils avaient clairement dit, je crois que c'était Matuidi qui à l'époque avait dit, oh mais si on perd 4-1, moi je suis content parce qu'on est qualifié. Et puis c'était dit, mais c'est quand même, c'est une drôle de,
ouais, gagner pas dire,
c'est une drôle de, un drôle d'état d'esprit. Et donc je pense, moi depuis ce jour-là,
j'ai appliqué la même chose.
Et même avant, voilà, je sais qu'il peut tout se passer, donc j'ai pas envie de crier victoire trop vite. J'ai vu le Paris Saint-Germain mener 3-0 à la Corogne à la 70e minute et perdre 4-3. Donc, peut tout se passer.
Je peux dire quelque chose ?
Je t'en prie.
Tu as cité des noms de dirigeants du Bayern. C'est tous des anciens joueurs qui ont la victoire en eux. Et ça marche. Combien de clubs ont dans leurs instances, mais dirigeants, c'est pas des faire-valoir. C'est des gens qui ont des postes de direction, des directions sportives, des postes importants. Et ces gens ont déjà gagné, ont gagné des Coupes du Monde, ont gagné des Coupes d'Europe. Et il y a quand même cette culture inculquée qui a insufflé. Et c'est un exemple pour plein de clubs, j'ai en Belgique, combien d'anciens joueurs sont dans les instances dirigeantes, quoi. C'est catastrophique.
Et là, le Bayern va séparer du président actuel Rummenigge pour le remplacer par
Oliver Kahn.
Voilà, par un autre illustre joueur, Oliver Kahn. Donc c'est vrai que ça entretient le.
Mais c'était un peu le rôle qu'on attendait de Leonardo, et au final, j'ai l'impression que son premier passage était bien plus satisfaisant que son retour. J'ai l'impression qu'on l'entend plus, qu'il vient uniquement dans les médias quand le PSG a gagné en championnat. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve son bilan mitigé à Leonardo depuis qu'il est revenu. Bon, ça c'est. C'est un long débat.
Depuis que le Qatar est arrivé, ils voulaient gagner, ils n'ont pas gagné.
Bon, mais écoutez, on va rester confiant quand même pour le Paris Saint-Germain, et on va passer à une autre équipe qui elle aussi court après la Champions League depuis des années, une équipe qui a le même profil un peu que le Paris Saint-Germain, Manchester City bien sûr. Manchester City a gagné à l'aller 2-1 à domicile et se rend à Dortmund pour défier le Borussia Dortmund. Est-ce que ce serait pas des quatre matchs celui où on pourrait avoir une surprise? Je rappelle que les autres c'est Chelsea Porto et Chelsea l'a remporté 0-2. Et le dernier match c'est Liverpool Real et 3-1 à l'aller pour le Real, et il faudrait un exploit de Liverpool, un Liverpool porté par Anfield. Ce serait possible. Mais face à ce Real là dans un stade vide, je suis pas certain qu'ils réussiront l'exploit. Et donc ma
c'est
question,
la même chose pour Dortmund, hein.
Tu penses aussi, ouais.
Non.
Et ils auront pas le mur jaune, ils ont juste la différence, c'est qu'ils peuvent se qualifier en marquant en gagnant 1-0.
Moi c'était le score un peu surprise, j'ai trouvé, enfin, c'est outre ça. Le PSG évidemment, ouais. Le score un peu surprise, je m'attendais, mais ils menaient si mes souvenirs sont bons, c'était 2-0 puis
non, c'est 1-0, 1-1, 2-1 je crois. Ou je peux peut-être pas.
Ou pas. Mais ce score est venu comme une surprise.
Surtout
c'est un goal chez soi. Face à un Dortmund qui est
qui est un peu à la dérive.
Tous les médias allemands disaient que Dortmund allait se faire écarter, quoi. Enfin c'était sûr. Enfin je veux dire tous les grands journaux disaient que ce Dortmund là était fini pour la Champions, et au final ils font un super match, quoi.
Il y a Haaland, hein, qui peut sortir.
Et quand il marque pas, il fait une passe D qui est incroyable.
Non, ce sera.
Apparemment, il était fantomatique avec la Norvège.
Ouais, il se réserve. Il se réserve peut-être. Mais ça va être intéressant. Bon, City devrait logiquement se qualifier, mais ce serait une surprise qu'il se fasse éliminer. Mais comme le Paris Saint-Germain, disons que l'approche des grosses échéances européennes les fait un petit peu trembler.
Ils viennent de se faire surprendre en championnat. Par Leeds.
Tout à fait. Donc ça peut être un élément.
Mais surtout, c'est bizarre. City, enfin, c'est un peu un trait de Guardiola. Mais à chaque fois que les gros matchs arrivent, il essaye des compos un peu de professeur fou comme ça. Et au final, ça marche pas. Et il y a beaucoup de gens qui parlent d'un espèce de complexe de supériorité quand il aborde les grands matchs en disant que lui c'est un professeur et que les autres sont des moins que rien. Mais c'est vrai, enfin, les 4 dernières années, ça fait 4 ans qu'il a Manchester City en Champions League, il se fait toujours sortir en essayant une compo qu'il a jamais essayé, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est...
Là, il a mis De Bruyne sur le banc.
Ouais, bon, il l'a reposé, c'est bien au moins. Ouais. Kevin sera...
Enfin, de toute manière, en Angleterre, ils sont déjà champions, donc je pense qu'il veut absolument gagner cette Champions League, lui aussi.
Non, mais ça fout mal à la maison, perdre contre Leeds à 10 contre 11.
Ouais. Surtout, Leeds avait eu 2 tirs cadrés, quoi.
Et alors Paris Saint-Germain aussi.
L'important, c'est le résultat.
L'important, c'est le résultat. Et bon, et le choc qui aurait pu être, qui est sans doute une des plus belles affiches européennes, ce sont les deux clubs les plus titrés, hein, Liverpool et le Real. Malheureusement, comme je disais, un exploit sans doute sera nécessaire à Liverpool.
Oui, mais moi je
les enterres pas.
Je n'écarte jamais Liverpool.
Non, c'est vrai.
Surtout, je trouve cette saison, ils sont vraiment capables du meilleur comme du pire. Ouais. Ils sont totalement instables.
Ils ont un joli maillot.
Oui. Moi, je les ai trouvés complètement carbo en fait contre le Real. Et je sais pas si parce que enfin de nouveau au milieu, ils se sont fait manger quoi. Et bon. Ce milieu du Real, franchement, il faut en parler, quoi.
Ouais.
Une fois les 3 Champions gagnés, on s'est dit c'est bon, ils sont finis.
Puis ils avaient l'air un peu vieux. Enfin,
ouais, c'est Modric, ça. Modric, il avait gagné 35 ans, là.
Il avait gagné le Ballon d'Or, ouais. Il avait gagné les Ligues des
et
Champions.
Et là, bah, ils ont roulé sur le milieu de Liverpool, pardon. Enfin,
on rappelle, c'est Casemiro, Kroos et Modric.
Ouais, hein, c'est ça.
C'est vrai que
mais j'enterrerai pas Liverpool parce que dans non. un bon jour, c'est vrai que tu as raison, hein, ils sont des fois un peu carbonisés, mais ils ont aussi repris un peu en championnat d'Angleterre à certains moments. Enfin,
c'est vrai qu'ils auraient pu tout lâcher.
C'est une année très étrange pour eux.
Très bizarre.
Et ben justement, passons à la première ligue. On l'a dit, Manchester City s'est fait surprendre à domicile face à Leeds. Moi, je pense que peut-être même que Guardiola a fait exprès parce qu'il a une trop grande une admiration pour le maître.
Il voulait
montrer à tout le monde quel loco était le meilleur. Non, ça a été un match que Manchester City aurait dû
boucler.
Ah oui, boucler. Ils étaient à 10 contre 11. Ils ont pris un but à la dernière seconde. Guardiola n'a pas fait rentrer Kevin De Bruyne pour le préserver. Bon ben. C'est une défaite sans aucune conséquence, sans doute. Hein. Je serais très étonné que Manchester United réussisse à faire son retard. Mmh. Ça me... avec Harry Maguire.
Cavani se met à marquer. Hein.
Et Cavani se met à marquer. Et donc, on passe à Manchester United qui jouait Tottenham. C'était un match qui sentait un peu la poudre. Tottenham, c'est José Mourinho, l'ancien coach de Manchester United. Tottenham qui vit une saison assez médiocre, en fait, de haut et de bas, et qui semblait, parce que tout le monde, il y a eu un petit tassement, tout à fait en haut du classement, mais disons pour les 3e et 4e places, Tottenham semblait relancé pour pouvoir se mêler à la lutte, mais là ils ont fait un match... c'est pas quoi dire, ils ont marqué un super but, Son.
Bah c'est la doublette Son Kane depuis le début de la saison. Quoi.
C'est les arbres qui cachent la forêt parce qu'il se passe pas grand chose et pourtant ils ont de bons joueurs. Ils ont de bons joueurs, mais sans doute les consignes de José Mourinho.
Mais je trouve ça un peu dur de lui tomber dessus. Enfin, ok, on peut dire tout ce qu'on veut.
Ouais, c'est ça.
Non, moi je l'aime bien Mourinho.
J'essaie d'être juste. Hein.
Mais non, mais je veux dire, enfin, Pochettino, il a pas réussi l'année dernière non plus. Et ok, ce groupe est arrivé en finale de Ligue des Champions, mais sinon ils ont jamais rien fait. Enfin, c'est le même groupe depuis 10 ans maintenant, et ils ont jamais rien fait à part une finale de Ligue des Champions. C'est génial, mais
je trouve dur, quoi. Tu vois d'où ils viennent quand même.
Ouais, mais
Tottenham était un club très moyen qui végétait dans le sub-top depuis hyper longtemps et ce que Pochettino en a fait, il les a vraiment sortis du trou.
C'est sûr, c'est sûr.
Oui.
Mais
je dis pas ça pour te couper. Polémique, c'est le but. Hein,
Tu as raison. Et quand je dis ils ont rien fait, évidemment, j'accentue la chose. Mais c'est vrai, c'est pas vrai.
Pour aux nouvelles attentes.
Exactement. Maintenant, ils ont leur nouveau stade, ils ont un budget conséquent. Enfin, voilà quoi.
Ils ont un des meilleurs attaquants du monde.
Ils ont un
Harry Kane, le capitaine de l'équipe
d'Angleterre. C'est ça. Ils ont Son aussi qui fait aussi partie des meilleurs attaquants du monde. Ils ont Lloris qui est un des meilleurs gardiens du monde. Enfin, non mais enfin. À partir d'un moment, il faut passer un palier. Et ce palier, ils l'ont pas passé. À chaque fois qu'ils essayent d'être champions d'Angleterre, ils perdent dans les 10 dernières journées, ils terminent quatrième. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions où ils ont eu une chance monstrueuse en battant l'Ajax dans la dernière minute. Enfin, tout ça, c'est d'accord, c'est super ce qu'ils ont fait. Comme tu as dit, ils sont sortis du trou, mais maintenant, il faut passer la vitesse supérieure. Bon, certes, maintenant, ils sont sixième, donc
Attends, je suis d'accord avec toi sur ton constat. Mais il ne faut pas oublier une chose avec Tottenham, c'est que comme Arsenal à l'époque, même pas sûr qu'Arsenal en soit totalement sorti, le coût du stade a entraîné et entraîne toujours une restriction assez importante au niveau... On sait qu'en Angleterre, les dépenses sont complètement somptuaires. Hein, pour n'importe quel joueur moyen, on avoisine les 20 millions.
Les 50 millions.
Oui, pour les joueurs, c'est ça. Il n'y a rien qui se vend en moins de 20 millions. Là, honnêtement, ça leur... Oui, c'est un axe de développement pour l'avenir, mais ça a coupé également les ailes de pouvoir faire des transferts du niveau complètement extraterrestre de la Première Ligue.
Et Kane a apparemment demandé de partir aussi cet été. Donc,
Il a fait le tour de la question, je pense.
Ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que pour un joueur comme lui,
qui mérite tellement mieux,
qui est devenu capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui est le meilleur buteur depuis des années, voir que ça stagne et que il me fait penser un peu à Alan Shearer, hein, d'une certaine manière. Shearer, c'était un très grand goléador. Bon, il avait l'amour du maillot puisqu'il était
Newcastle.
Après Blackburn, il était allé à Newcastle qui était son club. Harry Kane, il arrive à un moment dans sa carrière où peut-être qu'il veut quand même gagner un titre.
Ouais, c'est ça. Et justement, enfin, on peut dire OK, super, l'amour du maillot, tout ça, mais les Totti, les Maldini, les Gerrard, ils étaient dans une équipe qui gagnait des titres.
C'est
donc
vrai.
Évidemment, ils sont restés parce que leur équipe gagnait des titres.
Le Gerrard, parce qu'il y a eu cette fameuse finale de la Ligue des Champions en 2005, mais sinon il gagnait rien
il a gagné quelque chose. Kane, il a rien gagné.
Et puis il était dans l'équipe, me semble-t-il, du triplé 4 ans avant. Alors il y avait du triplé, ils avaient gagné les deux coupes, la Coupe UEFA avec Gérard Houllier. Bon, enfin, c'était un club malgré tout, Liverpool était à l'époque, il est encore d'un standing autre que Tottenham. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser qu'un joueur comme Harry Kane a envie de partir.
Je le comprends tout à fait. Par contre, je reste un éternel nostalgique de ces joueurs qui se disent « Je joue quand même dans le top 5 en Angleterre et j'ai l'amour de mon maillot et j'ai envie de continuer avec l'amour de ce maillot parce que finalement, l'herbe ne sera pas tellement plus verte. »
Si, le monde a changé.
Pas forcément. Regarde, quand Van Persie est parti d'Arsenal à Manchester, il ne gagnait plus rien, on se disait « Il va passer toute sa carrière à Arsenal. » Le transfert s'est plutôt bien fait. Il n'y a pas eu trop de désamour entre les supporters. Et au final, il est parti là-bas et il gagne 3 premières ligues, tu vois. Chose qu'il n'arrivait pas à faire à Arsenal. Peut-être que s'il va à Chelsea cette année, Kane, il gagnera 2 premières ligues plutôt que 0. Mais je suis d'accord avec toi, rester dans les clubs, c'est...
Bon, en tout cas, j'irais pas, si génial. J'étais Harry Kane, j'irais pas trop loin.
Je pense que Tottenham aura plus intérêt à mettre un peu d'argent pour bâtir une équipe autour de Kane que d'essayer de dépenser l'argent en plusieurs petits joueurs qu'ils vont avoir pour Harry Kane.
Je
comprends que la motivation du joueur, hein, il a aussi envie à un moment de voir ailleurs et se dire que sa carrière ne s'est pas limitée à un club et à un club où il n'a pas tout gagné.
Et en tout cas, le classement est encore loin d'être figé. Il reste encore 6 journées en Angleterre. City va être champion sans doute à la brugeoise presque. Manchester United, on s'en désole et pourtant je suis un amoureux de Manchester United, mais de les voir deuxième, ça me... Avec le jeu,
c'est
enfin ça
beau.
Dépend. Non, c'est pas beau. C'est Maguire. S'il pouvait m'enlever ce Maguire qui m'énerve.
Écris une lettre.
Je vais écrire une lettre, ouais, au Glazer en leur disant virez-moi ce Maguire.
Cher monsieur.
Mais c'est derrière qu'il va y avoir une bataille intéressante. Je rappelle que les 3e et 4e places sont qualificatives pour la Ligue des Champions et qu'au moment où je vous parle, on a 6 équipes, six équipes qui peuvent encore espérer toucher l'une de ces deux places. Leicester, 56 points. Chelsea, 54. Liverpool, 52. Tottenham, 49. Everton, même 47, mais deux matchs en retard. Et surtout, une équipe que j'ai omis sciemment, West Ham, 55 points. West Ham qui se retrouve donc actuellement quatrième, qui pourrait... c'est une grosse surprise.
Avec Grealish.
C'est... Non, c'est Aston Villa avec.
Chaque fois, je fais l'erreur.
C'est les clarettes. C'est le maillot qui a en erreur. C'est le club de David Moyes. David Moyes, the chosen one, celui qui avait remplacé Alex Ferguson à la tête de Manchester United. C'est pas terrible quand vous avez un surnom comme ça. Vous êtes il y avait le special one, mais lui, ils lui ont donné the chosen one et ça a pas très bien marché. Deux buts, grâce à, ils ont gagné face à Leicester justement ce week-end. Leicester qui le talonne maintenant. Ils ont plus qu'un point de retard sur la troisième place. Doublé de Jesse Lingard, ancien de Manchester United.
C'est impressionnant quand même. Lui, ça fait un an et demi qu'il est à la cave à Manchester. Ouais, complètement. Et là, il arrive à West Ham. Et...
Il a dû jouer quoi, 12 matchs. Il a marqué 8 buts.
C'est n'importe quoi.
Ouais, ouais. Et non, comme quoi, il y a des transferts de milieu de saison qui sont bien inspirés.
J'ai vu un truc qui disait que, en fait, il était plus heureux à Manchester parce que quand il descendait dans sa cuisine, il faisait déjà nuit, alors qu'à Londres, il était dans un immeuble où il était en hauteur et qu'il faisait un peu plus
à quoi ça tient.
La luminothérapie, voilà. Alors qu'il aurait pu avoir simplement, ils auraient pu installer des lampes chez lui.
Nous, on essaye d'analyser les tactiques, les transferts, la gestion. Et en fait, c'est... Petite info, c'est 0-1 pour l'Antwerp. Dieu merci.
C'est Dieu merci. Donc,
Dieu merci revient à la vie.
Oui.
Donc voilà, il va avoir une belle fin de championnat en Angleterre, en Premier League. On espère quand même que Leicester va rester là parce que Youri Tielemans a fait une telle belle saison que ce serait sympa de
qu'il même soit l'équipe en entier a fait une super saison.
Même Castagne, je trouve.
Ouais. Timothy, si tu nous écoutes. Je vous propose qu'on termine par la Liga. Il nous reste 2 minutes, mais il y a eu un classico qui a été de toute beauté. On a vu un but magnifique de Benzema, une magère. Il a coupé le ballon, comme on dit, en premier poteau. La talonnade, c'était superbe. Il y a eu des tirs, il y a eu des arrêts. Il y a eu une super sortie de Courtois devant Messi. Un super match de Courtois. On parle du Real
avec la réussite des grands gardiens.
Des grands gardiens. On parle du Real, on parle du retour peut-être énième d'Eden. J'ai l'impression qu'il est très en avance.
Faut pas en parler. Ouais.
Normalement, il serait dans le groupe le week-end prochain. Mais il est pas.
Il le laisse. Je me souviens qu'on. Cela dit, on a loupé 2 semaines, 2 émissions ici, donc ça fait déjà 3 semaines au moins.
On l'attend trop et on l'attend et puis à chaque fois. J'ai l'impression qu'il faut lui donner du temps.
Laissons-le de côté.
Il y a une vidéo de lui qui est sortie et il est extrêmement fit. Beaucoup plus fit que,
les autres. On a vu un super but qu'il a marqué à l'entraînement. Si on m'a dit un jour que je me réjouirais de voir un goal de Eden Hazard à l'entraînement, j'aurais pas cru ça.
Et en tout cas, cette victoire du Real Madrid face au Barça, conjuguée au surplace qu'est en train de faire l'Atlético. Vous vous souvenez, on disait il y a quelques semaines que l'Atlético était en tête, ils avaient des matchs en retard, ils avaient 7 points d'avance, enfin bon, tout allait bien. Et ben là, c'est complètement, tout est remis à plat. L'Atlético, certes, occupe toujours la première place, 67 points, mais seulement 1 point d'avance sur le Real, 66, et 1 point d'avance seulement sur le Barça, 65.
Et il reste un Atlético-Barça dans 2 semaines.
Il reste un Atlético-Barça, il reste 8 matchs, parce que la Liga est un petit peu en retard sur les autres. Donc, écoutez, ça nous fait encore plein d'émissions passionnantes à venir. Je voulais vous remercier pour cette émission, pour votre apport qui est toujours excellent. Steve, merci.
Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, on aura
chance demain.
Bah oui.
Merci. On pourra tirer des conclusions à la semaine prochaine.
Voilà, la semaine prochaine, des conclusions sur la Première Ligue, sur la Jupiler Pro League et sur la Ligue des Champions. À la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Au revoir. Merci.
Et ben voilà, quatrième. C'est bougé.